Ça nous amène à la chronique des apatrides anonymes de l'édition du 16 novembre, lundi 16 novembre, avec Simon.
Salut Christian, bonjour tout le monde. Et oui, en tant que colon, on se permet même de dicter qui a le droit de venir sur le territoire de l'Amérique du Nord, de notre pays que tu as. Toi, en général, tu dis qu'on appelle le Canada ou la ville qu'on appelle Montréal. Je pense que tu prends tout le temps le soin de nommer les choses de cette façon-là pour bien nous rappeler que ce ne sont pas nécessairement les noms officiels. Enfin, bref, plusieurs sujets aujourd'hui. Je voulais vous faire peut-être une mini-biographie des deux nouveaux ministres du gouvernement Trudeau qui nous intéressent le plus aux apatrides, soit le ministre de la Sécurité publique, le ministre de l'Immigration. Évidemment, la question qui est beaucoup, beaucoup dans l'air du temps actuellement, c'est la question des 25 000 réfugiés que le Canada souhaite recevoir d'ici la fin de l'année. Donc, quelques considérations, quelques réflexions par rapport à ça. On va aller en Europe aussi, où ben, l'hiver arrive. Ça a l'air niaiseux, mais ça a un impact quand même assez considérable sur les flux, les mouvements de population actuellement. Si jamais j'ai le temps, à la toute fin, je vous parlerai de ce qu'on appelle la jungle de Calais, qui sont des camps de réfugiés qui souhaitent traverser en Angleterre, donc qui sont parqués dans le nord de la France. Donc, nos deux ministres qui nous intéressent, lors de la dernière chronique, Marie-Ève ne pouvait pas vous en parler, ils viennent d'être assermentés, ça fait quoi, une semaine, c'est un nouveau gouvernement encore. Donc, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, donc on a rajouté le mot, la particule Protection civile, c'est M. Ralph Goodale, que vous connaissez peut-être, un vieux routier de la politique, il n'a fait que ça dans sa vie, ça fait depuis l'âge de 24 ans. Qu'il est en politique au provincial d'abord en Saskatchewan et depuis 9 élections élues consécutivement à Ottawa. Peut-être des faits marquants, il a déjà été ministre des Finances et alors qu'il était ministre des Finances, il était un grand partisan des budgets équilibrés et de la réduction des dépenses gouvernementales, donc de l'austérité. Il a été ministre des Travaux publics et c'est à ce moment-là que le ministère des Travaux publics a fait l'objet de nombreux scandales. Il y a même eu une enquête de la GRC qui a porté des accusations d'abus de confiance contre certains de ses proches collaborateurs. Monsieur Goodale, je ne rentrerai pas beaucoup dans le détail, ça ne nous intéresse pas tant que ça, sa vie. On peut rappeler qu'il a voté pour C-51, donc la loi antiterroriste, comme tout le Parti libéral d'ailleurs. Et là, il envisagerait quelques amendements qui ne sont pas encore précisés, mais non l'abrogation complète de la loi. Je vous réfère à la dernière chronique de Marie-Ève que vous pouvez aller voir dans le site Internet des Apatrides ou dans la section Archives de CKUT. Ministre de l'Immigration, donc lui, on risque vraiment de vous en parler davantage, M. John McCallum, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Donc, on a rajouté des réfugiés au nom du ministère. Un député des banlieues nord de Toronto à Markham Unionville, un peu plus intellectuel que M. Goodale peut-être. C'est un chercheur et enseignant en économie, auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages, articles scientifiques. Enseigné un peu partout au Canada, dont à l'UQAM dans les années 80, mais ça reste quand même un vieux routier de la politique lui aussi. En tant que nouveau ministre de l'Immigration, moi j'étais un peu inquiet de savoir qu'il a écrit un livre qui s'appelle « National Borders Matter ». Qui, heureusement, si on peut dire, ne fait pas référence à l'immigration, mais plutôt davantage aux accords de libre-échange. Donc, ça concerne davantage la circulation des biens et des services que la circulation des personnes. Il nous a déjà fait rire, M. McCallum, contre son gré, je pourrais dire. Il a déjà été ministre de la Défense vers 2002. Il n'avait jamais entendu parler du raid de Dieppe lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui est probablement l'événement le plus marquant de l'implication canadienne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait évidemment été critiqué et réutilisé par la suite, donc il a essayé de se rattraper. Il avait écrit une lettre ouverte dans les journaux et on peut lire ceci. C'est une traduction vers le français. J'ouvre les guillemets. Dieppe, comme Vichy plus de 2 décennies plus tôt, témoigne de notre fierté comme nation dans la défense de la liberté et de la justice. Donc, on comprend qu'il confondait Vimy et Vichy, ce qui est une petite erreur pas si anodine que ça. Il n'y a pas nécessairement un bilan très positif en tant qu'ancien ministre de la Défense. Il avait été un acteur clé dans l'implication à l'organisation de l'occupation de l'Afghanistan par l'OTAN, responsable aussi d'une des plus importantes augmentations du budget de l'armée, de l'histoire de l'armée, même presque 1 milliard d'augmentation en une seule année en 2003. J'imagine que ça a été dépassé par les conservateurs par la suite. Pour ce qui est de immigration, citoyenneté, tout ça, il semble avoir aucune connaissance ou expérience particulière. Donc, on verra peut-être le test avec les 25 000 réfugiés, comment tout ça va être géré. Évidemment, on vous a parlé de ça assez fréquemment dans les dernières chroniques des apatrides, Marie-Ève, Mathieu, moi-même. Il reste 6 semaines, selon l'objectif du gouvernement, pour accueillir 25 000 réfugiés, donc d'ici le 1er janvier 2016. Beaucoup questionnent l'échéancier. Donc, on se demande si, à part pour flasher au Trudeau-mètre ou Trudeau-meter, qui est un nouvel outil en ligne pour vérifier les réalisations des promesses électorales, on se demande un peu pourquoi on insiste absolument sur un échéancier si court. On pourrait accueillir beaucoup, beaucoup plus de personnes réfugiées, mais ça peut être sur une période d'un an, par exemple 100 000. Le char des chiffres patenté un peu n'importe comment, mais 100 000 d'ici la fin de l'année 2016, par exemple, ou même plus. Ce qu'on sait pour l'instant, d'abord, bon, il y a un comité regroupant 9 ministres, dont Mélanie Joly, qui a été formé pour gérer l'accueil des 25 000 réfugiés. Comment on souhaite procéder? On compte aller chercher les candidats, là, je dis ça entre guillemets, j'aime pas trop le terme, principalement dans des camps de réfugiés qui sont dans les 3 pays suivants, donc au Liban, en Turquie, en Jordanie, ou dans 1, 2 ou 3 de ces pays-là. Seulement les personnes dont on pourra démontrer qu'elles ont la citoyenneté syrienne seront considérées. Les modalités comme transport, comment on va amener les gens ici, logement, tout ça, ça peut être annoncé, c'est pas très clair. 10 000 réfugiés auraient déjà été sélectionnés. C'est ce que le nouveau ministre de l'Immigration, M. McCollum, a précisé il y a 3-4 jours, mais il n'y a pas plus de détails là-dessus non plus. Et on pense que ça avait déjà été enclenché, en principe, sous le gouvernement précédent. Quelques appréhensions par rapport à cet objectif d'accueillir 25 000 réfugiés d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe après le 1er janvier? À date, on ne sait rien. Il n'y a pas eu de promesse électorale, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de précision à ce sujet-là. On sait que le système d'immigration, le système d'accueil des réfugiés, il est complètement en ruine, il est en lambeaux actuellement, suite évidemment aux coupes sauvages et aux réorganisations un peu broche à foin du dernier gouvernement. Les structures d'accueil, les groupes communautaires ont été pas mal amochés, ils ont perdu beaucoup de financement, perdu beaucoup de personnel, donc ce n'est pas nécessairement au meilleur de leur forme actuellement. On se demande aussi pourquoi les gens de la grande région affectés par les conflits actuels, que ce soit l'Irak, la Libye, même si on veut pousser plus loin l'Afghanistan, pourquoi ces personnes-là ne sont pas considérées dans le programme d'accueil des réfugiés? Évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec les réfugiés des autres pays ou des autres continents, même que ce soit des pays qui vont très mal actuellement, Darfour, Soudan, Burundi, Zimbabwe, Haïti, Salvador, Mexique, peu importe. Est-ce qu'on va rogner dans les quotas actuels d'accueil des réfugiés et négliger les populations de ces pays-là qui auraient franchement besoin de changer de pays aussi? Donc, j'imagine qu'avoir des critères de sélection si serrés, donc personnes syriennes seulement, on veut quand même envoyer le message clair que les portes du Canada ne sont pas grandes ouvertes, que c'est un programme spécial et temporaire. Par contre, si on y allait avec un programme qui serait plus réfléchi, à plus long terme, avec plus de ressources, on pourrait en profiter pour reconstruire le système d'accueil des réfugiés. Ce serait vraiment une belle occasion de le faire. Donc, au fur et à mesure qu'on accélère la cadence d'accueil des réfugiés de la Syrie, on ouvre à des personnes issues d'autres pays, on reconstruit au fur et à mesure le système, on refinance les différentes ressources. Il me semble que ce serait une bonne idée. Donc, est-ce qu'il s'agit seulement de mesures temporaires? On ne le sait pas, on le saura en 2016. Autre suggestion, moi, que j'aurais, parce que je pense que le premier ministre et ses ministres nous écoutent actuellement, donc je vais y aller de mes suggestions personnelles. Là, on va seulement aller chercher des réfugiés qui sont déjà dans des camps pour réfugiés dans les pays limitrophes de la Syrie. Ce serait une bonne idée aussi d'aller en chercher ailleurs. Donc, je vais vous parler tantôt de l'hiver qui s'installe en Europe, les conséquences que ça a. Ça rend les conditions passablement dangereuses. Donc, on pourrait aller en Europe chercher des réfugiés. Il y a actuellement beaucoup de frontières qui sont fermées, qui sont bloquées, et très, très récemment, il y en a eu d'autres. La frontière slovène avec la Croatie, la frontière autrichienne avec la Slovénie, la Suède, qui il y a quelques jours a rétabli sa frontière, la France, bon, évidemment, on le sait, depuis vendredi passé. Aux abords de ces frontières nouvellement fermées, bien évidemment, il y a des camps de fortune qui grossissent à vue d'œil. C'est des conditions qui ne sont pas très avantageuses, si je peux dire. On pourrait aussi aller, autre suggestion, sur les côtes libyennes, les côtes turques, où on pourrait peut-être même éviter la mort à de nombreuses familles, à de nombreuses personnes. avant d'entamer une traversée dangereuse en mer. Petite parenthèse, l'une des îles grecques les plus concernées par les mouvements de population, c'est l'île de Lesbos. Et il y a des manifestations de citoyens grecs, principalement, récemment, pour demander de réouvrir la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, puisqu'il y a tellement de morts qui s'échouent sur l'île de Lesbos qu'on ne sait même plus où les enterrer. Et c'est littéral, là, on cherche l'espace, on cherche des lopins de terre, et ça commence à poser un problème. En fait, c'était déjà un problème, mais la quantité fait en sorte que c'est de plus en plus difficile, là. On pourrait aller dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, donc les campements dont je vous parlerai peut-être plus tard, où il y a beaucoup de gens, des milliers de personnes qui vivent dans des conditions précaires. Donc le Canada pourrait être plus proactif dans plusieurs endroits où les conditions de vie sont très difficiles pour les personnes qui sont en situation de migration, de demande de refuge actuellement. Et bref, dernière suggestion, pour aller dans n'importe quel pays européen xénophobe, le Canada pourrait aller chercher des réfugiés qui sont là, en Hongrie, en Angleterre, en Pologne, etc., où le refus d'accueillir pourrait condamner les personnes réfugiées à la pauvreté, l'itinérance, la clandestinité, etc. Bref, l'hiver qui s'installe, c'est une réalité en Europe, c'est pas juste une réalité météorologique, c'est une réalité qui affecte beaucoup le phénomène actuel. La tendance normale qu'on observe habituellement vers novembre, décembre, c'est une baisse des traversées en mer parce que la mer est trop agitée, c'est trop dangereux. Par contre, de nombreux observateurs pensent que 2015 pourrait faire exception par rapport aux années précédentes. La traversée Libye-Italie, qui est très longue, qui est, je crois, quelques centaines de kilomètres, celle-là, on pense que ça va diminuer parce que c'est carrément impossible de traverser l'hiver. Par contre, les traversées en mer entre la Turquie et les îles grecques, c'est seulement quelques kilomètres. On constate actuellement que ça demeure stable. On pense que ça va même continuer à augmenter. Ce qu'on constate, en tout cas maintenant, c'est que la cadence n'a pas ralenti. L'hiver qui s'installe en Europe, ben, ça signifie aussi beaucoup de marches. Les gens qui fuient la guerre en Syrie marche des centaines, des milliers de kilomètres et il fait froid. Donc, les températures habituelles en hiver dans Grèce, Macédoine, Serbie, Croatie, tout ça, ça va à peu près 5 degrés, moyenne de zéro, mais ça peut descendre jusqu'à moins 20 et il neige. C'est pas exactement les images de cartes postales qu'on voit de la Grèce ou de la Croatie où effectivement il fait plus chaud, parce que les routes habituelles de migration sont plutôt en montagne. Ce sont des régions beaucoup plus arides, beaucoup plus difficiles. Donc actuellement, je suis allé vérifier la météo. Dans les Balkans, il fait environ 0 degré. Les différentes associations sont plutôt en mode distribution de bottes, de manteaux, de couverture, etc. Les camps d'accueil et les centres de transit mis sur pied dans les derniers mois sont composés de tentes qui sont non chauffées. Donc beaucoup de gens dorment dehors et les camps sont parfois pleins.
Et de toute façon, on ne croise pas nécessairement de tels camps sur sa route. Il y a des associations, des organisations internationales, des bénévoles, parfois même des gouvernements qui prévoient de tels camps, mais des campements de fortune pour accueillir de manière temporaire les réfugiés. Par contre, bon, une fois qu'on a décidé de la logistique, du financement, voilà, à tel endroit, on croit que ce serait un bon endroit pour planter des tentes et mettre quelques structures d'accueil éphémères. Mais une fois qu'on a décidé ça, qu'on met tout en place, on se rend compte que parfois les itinéraires des personnes réfugiées ont changé pour toutes sortes de raisons, à cause des nouvelles frontières, des nouveaux barbelés qu'on a construits, des nouveaux postes de contrôle que les personnes cherchent à éviter. Donc ça fait changer les itinéraires. Donc on plante un camp, on construit quelques structures à un endroit, et pour se rendre compte que finalement il n'y a personne qui arrive, il n'y a personne, les centaines, voire les milliers de personnes qu'on attendait ne sont pas là. Elles ont passé 8-10 km plus au nord, plus à l'ouest, etc., pour éviter tel obstacle que le gouvernement a érigé. Il y a aussi des bâtiments chauffés qui ont été prévus dans certains pays, qui ont été affectés à l'accueil temporaire des réfugiés. Mais encore là, encore une fois, c'est pas nécessairement sur les routes empruntées qui sont mouvantes, qui sont changeantes. Les gens, parfois, les évitent de manière volontaire parce qu'on soupçonne que ce seront peut-être des postes de contrôle. Et de toute façon, Même si les gens cherchaient à rejoindre ces endroits-là, parfois, elles seraient bien contentes de trouver un tel abri, du moins pour la nuit, avec chauffage, avec douche, avec nourriture. Mais l'information ne se rend pas nécessairement. Vous voyez, il n'y a pas de panneau de signalisation, de panneau indicateur qui dit, ben voilà, tournez à droite ici, vous allez marcher 1 heure, vous allez trouver un refuge chauffé pour la nuit. Ça fonctionne malheureusement pas comme ça. Autre conséquence de l'hiver qui arrive en Europe, ben on constate, certains observateurs, observatrices sur place constatent qu'une certaine proportion de réfugiés décideraient de rester en Turquie ou en Grèce pour l'hiver et reprendre leur route seulement au printemps, quand le beau temps sera revenu, quand la mer se sera calmée. Donc voilà, il y a différents facteurs actuellement qui sont en train de modifier la dynamique des mouvements migratoires du Proche-Orient vers l'Europe. Donc l'hiver en soi, qui rend le tout beaucoup plus difficile. Les différentes fermetures des frontières européennes, l'arrivée en scène de la Russie qui a commencé ses opérations en Syrie. On constate déjà des déplacements plutôt inhabituels de population, donc une dynamique différente de ce qui prévalait jusqu'à date en Syrie, donc qui vient à la fois modifier et ajouter aux déplacements qui existaient déjà. Donc c'est un sentiment assez contradictoire qui anime actuellement les personnes réfugiées qui sont aux portes de l'Europe. Sentiment d'urgence, vite, faudrait traverser maintenant avant que ce soit carrément impossible, avant que toutes les frontières soient bouclées, avant que le ton se durcisse davantage de la part des gouvernements européens. Et aussi un sentiment de prudence, de peur même, on devrait rester où on est actuellement, laisser passer l'hiver et on verra par la suite. Donc j'imagine que c'est un dilemme qui est assez difficile à gérer.
Je constate que la chronique du Daily va commencer bientôt. On va poursuivre la prochaine fois. Je vous parlerai de la jungle de Calais dans une prochaine chronique aussi. Et je cède le micro.